à nos internautes. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Ouais, c'est les vacances pour certains, donc je pense qu'on est en forme. Je vois des enfants, c'est super, c'est génial. Je vais vous inviter à vous lever pour louer, adorer Dieu. On a un privilège énorme, c'est de pouvoir louer ensemble et librement ce matin. Et on peut taper dans les mains, bien sûr.
Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dira jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dira jamais. Nous, les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais,
à jamais.
Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais,
à jamais.
Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération.
Au-delà du fait que Dieu est bon, il est majestueux, il est grand, il est puissant. Et ce matin, c'est vraiment ce qu'on veut chanter. C'est vraiment ce qu'on veut faire ensemble. Dire que Dieu, tu es majestueux. Tu es majestueux parce que ce matin, je suis debout et je respire. Mon cœur bat et je peux te louer.
Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante, majestueux.
Célébrer tous ensemble, dire merci Seigneur parce que je suis là avec mes frères et sœurs pour te louer. Est-ce qu'on peut entendre des enfants le prier ce matin, des ados, des jeunes, des moins jeunes, des jeunes depuis plus longtemps que moi, vraiment louer, adorer Dieu. On est devant notre Père, on est ensemble et on peut librement ce matin le remercier parce qu'il vit et parce qu'il nous a accordé la vie éternelle grâce au sacrifice de Jésus. Seigneur, encore ensemble, on veut te louer. On veut dire du bien de toi ce matin. On veut, Seigneur, réaliser, Seigneur, que si on est ici ce matin, c'est grâce à toi. C'est parce que tu fais battre notre cœur. C'est parce que tu as pris soin de nous toute cette semaine. Oui, il y a eu des moments difficiles, mais tu étais là. Jamais tu ne nous as délaissés. Jamais tu ne nous abandonneras. Et ce matin, ensemble, on veut te dire merci, Père. Merci. Que chacun puisse prendre la place.
Jésus, merci parce que malgré nos difficultés, tu es là. Et c'est dans nos difficultés que tu te révèles encore plus. C'est là que ta grâce, ta bonté, ta patience, ta fidélité se révèlent encore un peu plus à chaque fois. Merci parce que tu nous accompagnes et merci parce que malgré ta majesté, ta grandeur, tu es toujours près de nous, tu es toujours à nos côtés, tu nous soutiens. Merci pour ta bonté, Jésus. Merci pour ton amour.
Majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. Souverain,
Dieu tout-puissant, tu es saint.
chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel, tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement.
J'ai une pensée, les seigneurs, pour quelqu'un de précis parmi nous. Tu es insatisfait de Dieu. Tu es insatisfait de la manière comment il agit. Tu estimes qu'il ne choisit pas les bonnes personnes pour les bonnes tâches. Tu trouves que les gens que Dieu met en place ne sont pas assez qualifiés. Ils ont encore trop de défauts. Pour toi, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être parfait. Mais qui es-tu pour critiquer le choix de Dieu? Dieu ne cherche pas la perfection de l'homme parce qu'elle n'existe pas. Ce que Dieu cherche, c'est le rendre l'homme parfait. Et ceux qu'il choisit pour le servir, ils ont en eux des qualités que Dieu a mis en eux et que Dieu veut développer, qui ne sont peut-être pas apparents au premier regard, mais que Dieu va développer. Alors toi, souviens-toi que Jésus, quand les disciples ont demandé qui est le plus grand, a choisi un enfant. Un enfant n'est pas parfait. Un enfant est en cours de développement. Souviens-toi de cela. Souviens-toi d'où tu viens, toi, et comment tu as été au début, et comment Dieu a pu t'utiliser. Alors, au lieu de critiquer le choix de Dieu et de critiquer les personnes, encourage-les. Et remercie Dieu parce qu'il développe des nouveaux ministères, il développe des nouvelles capacités pour le service du royaume. Arrête de critiquer, arrête d'être critique dans ta pensée. Et réjouis-toi de ce que Dieu agit avec les plus petits comme avec les plus grands. Amen.
Songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés. Mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé. L'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Sans fin de louange, ô gloire. au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi.
Et de dire merci Seigneur parce qu'on va vivre avec toi pour l'éternité, alors qu'on chante vraiment ce matin de tout notre cœur. Est-ce que je peux entendre vos voix tous ensemble? Seigneur, merci. j'aurais eu envie de continuer, moi, à louer, adorer, dit éternellement. Punaise, ça va être... Oh, ça va être bon. Ça va être bon, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà bon. Passablement. Bon, c'est déjà bonbon là, mais ça va être extrêmement bon. Ah, je me languis. Ah, Seigneur, reviens. Amen, prends-nous et qu'on soit tous dans la joie et dans le bonheur, quoi. C'est... Bon, on va quand même passer un petit temps d'annonce avant d'entendre le message que Dieu veut nous communiquer au travers de Michel ce matin. Je vais vous laisser visionner une petite vidéo que je pense que vous pouvez connaître par cœur maintenant.
Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à aider le service ménage de l'Église. Pour cela, vous trouverez dans cette valise tout le nécessaire afin de mener à bien votre tâche. Ce message s'auto-détruira dans 5 secondes.
Venez rejoindre l'équipe ménage.
On vous attend.
Votre dernière mission sera de réunir un maximum de bénévoles dans l'équipe ménage. Pour vous aider, un stand se tiendra à votre disposition à la fin du culte.
On peut applaudir quand même l'équipe de ménage qui viennent. Je vais insister un peu plus. C'est-à-dire que vous avez plusieurs possibilités pour venir donner un coup de main au ménage. Normalement, ils viennent le samedi matin ou le dimanche matin. Mais certains viennent aussi le lundi et d'autres jours de la semaine, ils donnent 2 heures de leur temps. 2 heures. Si chacun, on peut donner 2 heures de notre temps sur un mois, c'est pas beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez donner votre nom, votre numéro de téléphone à Maxwell et vos disponibilités. Et dire, ben voilà, tel jour, je peux donner 2 heures, dis-moi qu'est-ce que je peux faire. C'est agréable de rentrer dans un lieu qui est propre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Donc, 2 heures dans un mois, c'est pas beaucoup. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait une liste interminable d'équipiers, d'équipières de tout âge. Même les enfants, vous pouvez venir. Même les ados, même les jeunes, les moins jeunes. Non, on va les conserver un peu. Mais tout le monde, vous pouvez venir nous aider, donner un coup de main à l'équipe de ménage. Je vais laisser maintenant la place à Michel. Et que vraiment Dieu te conduise par son esprit et que nous soyons tout ouïe à entendre ce que Dieu a à nous dire.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, dans le secret. Un grand merci à tous, à l'accueil, les techniciens, la louange, la musique. Merci beaucoup pour cette matinée qui nous encourage les uns comme les autres. On salue vraiment les uns et les autres, vous qui êtes de passage, en visite. La famille de Mathieu Thoman est ici ce matin, son papa est là, René, puis aussi sa sœur. Elle pensait rester discrète, on la salue bien. Et on vous salue tous, les uns et les autres. La thématique de ce matin, c'est « Vivre dans un monde de violence ». Comme chacun d'entre vous, je me suis interrogé, et notamment dans la période un petit peu difficile, il y a quelques semaines, lors des émeutes et des violences urbaines, je me suis interrogé sur tout ce qui peut se passer dans notre société, cette violence qui est omniprésente, et on la voit un petit peu partout, dans les foyers, les écrans, dans nos écoles, dans nos quartiers, sur la route. Le week-end dernier, un ado de 15 ans était tué d'un coup de couteau dans un village paisible de 1500 habitants. Une femme meurt tous les trois jours sous les coups d'un conjoint. Le racket, le harcèlement sont monnaie courante. Et on pense aussi à l'INSEE, cette jeune collégienne de 13 ans qui a mis fin à ses jours, victime de harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux. Tout cela, ça nous interroge en tant que chrétiens et en tant qu'Église aussi sur ce que c'est que la violence dans notre société. On pense aux violences urbaines, bien sûr aussi à la police qui se fait caillasser, à ces combats de rue. On a l'impression parfois que c'est comme une guérilla. On pense aux pompiers qui sont pris pour cible alors qu'ils tentent d'aider les sinistrés. Et à l'échelle internationale, on compte actuellement une cinquantaine de conflits dans notre monde, conflits armés, qui génèrent bien sûr aussi des dégâts collatéraux, dont personne vraiment ne se soucie. Je pense que le chrétien, lui, il doit se soucier de l'état de notre monde, être en prière, comme le dit l'apôtre Paul, prier pour les autorités, afin que nous soyons à l'abri de la violence et que nous puissions mener une vie paisible. Je pense que l'Église aussi doit être là, présente dans le monde. J'ai appelé ça les trois P, la prière, la présence et puis la prévention. Au travers de toutes sortes d'actions concrètes qui peuvent prévenir de la violence. J'écoutais une interview du docteur Denis Mukwege, qui est gynécologue et pasteur, directeur de l'hôpital Panzi à Bukavu, en RDC, est aussi prix Nobel de la paix 2018. Il parlait du viol comme une arme de guerre et du drame des enfants qui se retrouvent enceintes. C'est terrible. Terrible. Oui, nous vivons dans un monde de violence. Et cela nous désole, nous afflige, nous attriste. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Faisant quelques recherches, je me suis aperçu que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la violence n'a pas augmenté au vu de l'histoire et des statistiques. Mais avec les supports de communication et les réseaux sociaux notamment, on a l'impression qu'elle augmente, elle est partout. Alors qu'est-ce que c'est que la violence? Quelle est son origine? La Bible a-t-elle des choses à nous dire à son sujet? Et comment pouvons-nous, en tant que chrétiens, réagir face à la violence? J'ai donné quelques pistes déjà tout à l'heure. Voilà donc quelques questions que je me propose de traiter avec vous et des questions auxquelles on va essayer de donner quelques pistes. Première chose, donc, qu'est-ce que la violence? Le mot violence vient du latin vis, V-I-S. Force en action, force exercée contre quelqu'un. La violence, au fond, c'est l'utilisation intentionnelle de la force physique ou psychologique pour contraindre, pour dominer, pour détruire un individu ou un groupe, une communauté, l'amener à agir contre sa volonté en lui infligeant des coups, des blessures, de la souffrance, des traumatismes. La violence a beaucoup de visages. Elle est souvent présentée comme une réaction mal gérée, une réaction incontrôlée nourris par la peur, la colère, la jalousie, la haine de l'autre, la rage au cœur, le désespoir, la rébellion. Alors ce matin, je voudrais considérer la violence d'un point de vue chrétien, avec un regard biblique et théologique. Deuxième aspect donc de ce message, c'est que nous dit la Bible à propos de la violence. La Bible est pleine de violence. C'est normal, parce qu'elle parle de notre monde et elle nous parle de nous-mêmes. Et au fond, la Bible est un miroir dans lequel on peut se regarder. Le mot violence apparaît plus de 70 fois. Et dès les premières pages, Genèse au chapitre 6, au verset 11, elle nous dit « La terre était corrompue », c'est-à-dire débauchée, pervertie, dépravée. Devant Dieu, elle était pleine de violence. Les prophètes font la même constatation. Par exemple, Jérémie 51, verset 46, on est au 7e siècle avant Jésus-Christ, il nous dit « Il n'y a que violence sur la terre ». Ézéchiel fait le même constat. Ézéchiel 7, au verset 23, on est au 6e siècle avant Jésus-Christ, « Le pays est rempli de meurtres et la ville de violence ». Alors la Bible ne cache pas la violence, au contraire. Elle la met en évidence et elle ne l'oublie pas. Et donc c'est normal puisqu'elle nous parle de nous. Et la Bible donne même la parole à ceux qui en souffrent et qui la subissent. La Bible donne également la parole à ceux qui la commettent. Et elle dénonce la faute de ceux qui infligent la violence. Et elle cherche aussi à réguler la violence en donnant des lois pour la contenir, pour la prévenir et pour la punir. Et pour trouver l'origine de la violence, il faut remonter à la source. La violence commence dès le premier récit de la Genèse. Dans Genèse au chapitre 3, à partir du moment où Adam et Ève veulent se faire l'égal de Dieu. Et être violent, c'est souvent vouloir prendre la place de Dieu. Je vais doucement pour nous permettre de réfléchir. Parce que l'Église est un lieu où on est encouragé, mais c'est aussi un lieu de formation, un lieu où l'on réfléchit ensemble, où on cherche aussi ensemble des pistes et des solutions pour être des artisans de paix. Et c'est ce que je voudrais que nous puissions vivre ensemble ce matin, chacun à son niveau. Comment puis-je, moi, à mon niveau, devenir ou être un artisan de paix? Se venger, se faire justice soi-même, obtenir par soi-même la réparation de quelque chose en estimant être dans son bon droit. La violence se manifeste aussi dans l'hypocrisie d'Adam et d'Ève, qui rejettent la faute sur les autres. Et depuis ces événements, bien la violence, ses racines, ses mécanismes se trouvent en chacun de nous, parce que nous sommes tous marqués par ce que la théologie appelle le péché originel. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et ici, nous prêchons la vérité. Et on est pour la vérité parce que la vérité nous rend libres. Marc au chapitre 7 au verset 21, et on voit que Jésus est exactement sur la même ligne. Marc au chapitre 7 verset 21, il nous dit, en effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. C'est un beau catalogue qui amène la violence. Et je crois qu'on peut dire que dès notre naissance, nous portons en nous une part de folie, une inclination au mal qui ne peut être intégralement vaincu dans cette vie. Alors, le fait de devenir chrétien, par choix personnel et par notre conversion à Jésus, nous place au bénéfice, heureusement, d'une vie nouvelle. Et on est heureux. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et parmi les choses nouvelles, il y a une nouvelle identité. Nous avons de nouvelles priorités, de nouveaux sentiments, de nouvelles aspirations, une nouvelle espérance. On parlait du ciel tout à l'heure, de la rencontre avec Jésus. Ça, c'est quelque chose qui nous motive, qui change notre vie, qui donne un cap à notre vie. Mais hélas, nous restons des êtres en tension. Nous sommes en route vers notre perfectionnement. Et je rejoins le don spirituel de tout à l'heure, cette parole prophétique. Oui, nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Et heureusement pour chacun et chacune d'entre nous. Alors Romains 7, verset 19, l'apôtre là se désole aussi. En effet, dit-il, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Mais ce texte se termine en disant, grâce soit rendue à Dieu, car il nous accompagne en Jésus-Christ pour que chacun d'entre nous, nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous sommes dans l'excellence, nous ne sommes pas encore dans la perfection, un jour ça viendra, mais nous sommes en route vers le perfectionnement. Alors les temps n'ont pas changé. Adam et Ève ont tenté de se justifier en jetant la faute sur les autres, et puis on se rend bien compte que les temps n'ont pas changé. C'est toujours la faute des autres. Vous avez remarqué ? Tantôt c'est la faute des enseignants, tantôt c'est la faute des parents, tantôt c'est la faute du gouvernement, ou bien c'est la faute des réseaux sociaux. Mais reconnaissons chacun pour notre part, au fond, notre part de violence qui sommeille en nous. Chacun d'entre nous, nous sommes capables du meilleur comme du pire. Encore faut-il être honnête, sincère et le reconnaître. Alors l'histoire d'Abel, assassiné par son frère Caïn, est une autre illustration de la violence. Genèse au chapitre 4. Caïn est en colère et Dieu lui dit qu'il peut dominer ses pulsions et retrouver la joie de vivre en relevant sa tête. Et au fur et à mesure de la lecture de Genèse 4, au fur et à mesure de la lecture de leur histoire, on se dit, tiens, ils vont pouvoir se parler. Mais Caïn se jette sur Abel et le tue, comme s'il n'avait pas d'autre moyen de s'exprimer avec son frère que par la violence. Mais pour pouvoir s'exprimer autrement que par la violence, il faudrait avoir appris à se parler, à se connaître, avant que ne jaillisse la colère. Et on a l'impression qu'ils ne se sont jamais vraiment parlé. Au fond, si je comprends bien leur histoire, le raisonnement de Caïn, c'est comme celui de beaucoup de gens aujourd'hui. J'ai un problème. Mon problème, c'est Abel. Si je l'élimine, je n'aurai plus de problème. Vraiment ? Bien sûr que non. La violence n'est pas une solution pour se débarrasser de la colère. La preuve, elle engendre d'autres souffrances qui finissent par empoisonner votre vie et celle de votre entourage, celle des autres. Victor Hugo, qui est un auteur littéraire du XIXe siècle, décrit le malheur de Caïn et dans un poème, qui, dans la Légende des siècles, un poème qui s'appelle « La conscience », dans lequel, poème que j'aime beaucoup, où Caïn est rongé par sa conscience qui l'accuse. Et il décrit cette conscience qui est rongée, qui est accusée, comme un œil qui le suit partout. Alors, il rassemble la famille, il y a les enfants avec lui. Au fur et à mesure du poème, on s'aperçoit que la famille essaie de mettre Caïn à l'abri de cet œil qui le regarde en permanence. Ils érigent un mur, ils font toutes sortes de barricades pour essayer de protéger Caïn, et rien n'y fait. L'œil est toujours là. Il est dans une grande souffrance. Et pour finir, Caïn dit à sa famille, « Eh bien, creusez-moi une tombe, mettez-moi dans la tombe, et là, l'œil, je ne le verrai plus. » J'avais préparé une photo, malheureusement, elle n'a peut-être pas été là. On le voit, cet œil qui regarde Caïn, il est dans la tombe, il est assis, il est dans le noir. Et ah, voilà. Merci Pachik, merci beaucoup. Et là, il le voit et il est rongé par la culpabilité, par la condamnation, l'accusation. Le poème se termine avec cette phrase, « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. » La violence n'est pas une solution pour résoudre nos problèmes. Au fond, elle ne fait que les aggraver. Et le résultat, nous l'avons sous les yeux en permanence. Ce sont des drames familiaux, des vies gâchées, des morts, des populations déplacées, des catastrophes humanitaires, des enfants qui ne sont plus scolarisés, des naufragés, des exilés. Et personne ne s'en soucie. Et je crois que l'Église doit se soucier de ces situations qui affectent notre monde. L'Évangile doit être proclamé. Mais il y a un deuxième volet à l'annonce de l'Évangile qui est l'action, l'action du cœur, l'action sociale, une action humanitaire, une action en direction des souffrances de notre monde. Ce qui m'amène à notre troisième volet, comment réagir face à la violence? Comment pouvons-nous, en tant que chrétiens, réagir face à la violence? Vous savez, quand on est dans un bateau, et quand on est en mer, une mer démontée et agitée, pour éviter d'avoir le mal de mer, il n'y a qu'une solution. C'est de regarder un point fixe au loin. Et ça évite d'avoir le mal de mer. Et les situations actuelles autour de nous nous donnent le vertige. Et c'est ainsi que l'apôtre dira, Hébreux 12, regardez vers Jésus. Les regards fixé sur Jésus. Il est notre modèle et restera toujours notre exemple. Et pour avoir l'attitude qui correspond, l'action et le regard qui convient vis-à-vis de la violence comme toutes les autres souffrances, c'est de regarder à Jésus qui est notre exemple. Comment pouvons-nous en tant que chrétiens réagir face à la violence ? C'est de faire comme Jésus et de voir les choses telles qu'il les voit. Il est notre fondement, il est notre référence, il est notre stabilité, il est notre sécurité au milieu de la tempête. Alors le Nouveau Testament présente Jésus comme celui qui, toute sa vie durant, prend sur lui la violence sans la commettre. Jésus est notre modèle de non-violence, ce que la théologie appelle la non-violence évangélique. Parce qu'il y a des formes de non-violence, qui ne sont pas forcément évangéliques et chrétiennes. La non-violence évangélique. Par exemple, Matthieu chapitre 5, verset 38. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants si quelqu'un te gifle sur la joue droite. » Tends lui aussi l'autre, si quelqu'un veut te faire un procès, et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. » Ça, c'est une parole forte de Jésus, qui a souvent été tournée en dérision, en disant que les chrétiens sont des niais, ils sont naïfs, enfin, voilà. Mais Jésus cherche à nous faire sortir de la logique de la violence. Alors, Il faut bien comprendre, ce n'est pas forcément un commandement à appliquer à la lettre sans intelligence et sans réflexion. C'est une préférence et c'est une référence quand c'est possible, mais ce n'est pas toujours possible. Par exemple, si nous étions témoins de l'enlèvement d'un enfant, ce serait criminel de laisser faire sous prétexte qu'il faut refuser toute forme de violence. On est d'accord ? Et l'urgence nous rend parfois actifs et agissants de manière énergique. L'urgence rend parfois nécessaire une forme de violence. Il y a des violences verbales, des violences physiques, psychologiques, des violences dangereuses qui nécessitent des actions et des réactions énergiques. Il y a quelque temps, dans notre rue, il y a eu une tentative de rodéo. On en entend parler à la télé, on les voit quelquefois dans les cités, tout ça, ça nous interpelle. Mais c'est, quand ça arrive dans votre rue, quand ça arrive devant chez vous, quand les drames se présentent, vous voyez, quelquefois on a interrogé des gens comme ça, des amis, des voisins, et les gens vous disent « Ah, mais on n'aurait pas pensé, ah, on ne croyait pas que… » Mais quand ça arrive dans votre rue, alors… Il y a eu un premier passage dans ma rue et au deuxième passage, je suis intervenu énergiquement et j'ai fait stopper le rodéo. Vous savez, c'est une machine comme ça. Pourquoi ? Parce que dans la rue, il y a des enfants qui jouent et quand vous avez une grosse machine, plusieurs centaines de centimètres cubes, lancé juste sur une roue, c'est impossible de l'arrêter. Et moi, je pensais aux enfants dans la rue. Je suis intervenu énergiquement, j'ai fait cesser le rodéo. Et j'ai envoyé un petit message au maire pour lui dire, ça n'arrive pas que dans les cités, ça arrive aussi là. Pas de problème, pas de souci, il n'y a pas lieu d'intervenir, tout s'est réglé, c'est rentré dans l'ordre, voilà. Mais quand même pour lui dire, il m'a dit... Merci beaucoup pour votre intervention, mais faites attention. Faites attention à vous. Ben oui, quand on intervient, souvent, on risque gros. Mais Jésus a une attitude vraiment équilibrée entre d'un côté la violence et la lâcheté. C'est qu'il a une action qu'on peut qualifier de vigoureuse. Une action vigoureuse. Et là, on peut penser au vendeur qu'il a chassé du temple avec un fouet. Voyez donc, Jésus est pour l'équilibre. Et l'attitude qui convient pour un chrétien, c'est une attitude équilibrée. On n'est pas naïf. Et on n'est pas non plus insensible. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin d'être le fils de votre Père céleste, les fils de votre Père céleste. C'est un texte que l'Église persécutée connaît bien. Et là on aurait beaucoup de leçons à recevoir de l'Église persécutée. Au fond, Jésus refuse toute attitude, tout geste qui porte atteinte à la vie ou à la dignité des hommes, même ceux qui se conduisent en ennemis. Alors, il y a une différence entre agir énergiquement et porter atteinte à la vie ou à la dignité d'un homme. Et là, la différence est nettement marquée. C'est ce qu'on appelle la non-violence évangélique. Jésus pouvait se mettre en colère, et il est même intervenu, je l'ai dit, de manière vraiment énergique, mais il n'a détruit personne. Matthieu chapitre 10, au verset 16, un autre exemple. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et pur comme les colombes. » Jésus nous envoie comme des brebis, pas comme des loups au milieu des loups. C'est l'auteur latin, Plaute, qui a écrit « L'homme est un loup pour l'homme ». Il y a une part de vérité dans cela. Mais Jésus nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et le chrétien est une brebis. Et Jésus ajoute que pour vivre au milieu des loups, nous devons être tantôt serpents, donc c'est-à-dire prudents, pas des naïfs, tantôt colombes, propres, pures, simples, et souvent les deux à la fois. Autrement dit, il nous encourage à être des chrétiens équilibrés, à la fois lucides, clairvoyants, mais aussi nuancés, intelligents. Et parfois, en réponse à une violence subie, on sera peut-être même amené à porter plainte. La non-violence n'a rien à voir avec la résignation face à la violence. Elle ne refuse pas non plus le conflit. Jésus n'a pas dit « n'ayez pas d'ennemis », mais il a dit « aimez vos ennemis ». Ce qui suppose qu'on en est. Mais l'apôtre d'ajouter, pour autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Pour autant que ça dépende de vous. Mais tout ne dépend pas toujours de nous. Jésus, notre modèle, a subi la violence sans y répondre, tout en luttant contre les injustices. Et la non-violence évangélique n'exclut ni les conflits, ni la réaction énergique, mais ne porte pas atteinte à la vie. Il y a parfois des saintes colères. Alors l'antidote à la violence, c'est clairement l'amour. Jésus l'a prouvé par ses paroles, par ses actions, par sa vie et par sa mort sur la croix. Et au fond, Dieu soigne la violence par la violence, sur la croix. Dieu soigne la violence par la violence. Jésus a pris sur lui toute la violence du monde pour que nous puissions sortir de l'engrenage de la violence en faisant la paix avec Dieu, en faisant la paix avec nous-mêmes et en faisant la paix avec les autres. Pensons par exemple à Ésaïe 53, ce fameux chapitre qui est une démonstration éclatante de la mort de Jésus, de la passion de Jésus. Mais lui, il était blessé, Ésaïe 53, verset 5. Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Oui, il y a moyen de sortir de la violence et de l'engrenage et de la logique de la violence en devenant conforme à ce qu'il attend de nous, en faisant la paix avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres. La croix, elle est violente parce que Jésus a été tué, assassiné dans un climat d'agressivité physique, verbale, psychologique, spirituelle, isolé du monde, isolé de son père, c'est terrible. Il a payé pour moi, il a payé pour toi, en prenant ma place, en prenant ta place sur la croix. Et la croix de Jésus expose la violence du monde. Elle s'oppose à la haine, elle s'oppose à la vengeance. Pensez à la parole de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et le remède à la violence, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quel exemple, quel modèle. J'invite l'équipe à remonter pour rechanter ce chant sur la croix. Et en pensant à cela, je pensais à un livre que j'ai lu au début de ma conversion à Jésus, La croix et le poignard. J'étais fasciné par l'histoire de ce pasteur, David Wilkerson, qui n'a pas eu peur d'aller dans les quartiers de New York pour aller à la rencontre des gangs qui se battaient à mort. Il y avait souvent des morts. Et il est allé à la rencontre de ces gangs. Il a écrit un livre, on a fait un film qui s'appelle « La croix et le poignard ». Les plus jeunes, vous pouvez le retrouver même sur YouTube. Et à la fin de ce livre, il dit, le livre se termine avec cette pensée, la croix demeure plus puissante que le poignard. Voilà pourquoi je suis chrétien, parce qu'il y a une réponse, il y a une solution à la violence. Jésus est la solution. Seigneur, je te remercie parce que nous ne sommes pas obligés de vivre dans la violence. Et la violence n'est pas une fatalité. Je ne veux pas qu'elle soit une fatalité. Je veux agir comme un vrai chrétien et je veux permettre à l'Église aussi d'être visible, d'être active, d'être un témoignage, celle de la terre, lumière du monde, témoigner de la paix qui se trouve en Jésus. Merci de nous aider concrètement et pratiquement, les uns comme les autres, à rayonner de l'amour de Jésus qui est cet antidote à la violence. Merci parce que nous avons de nombreuses occasions de le faire. Merci pour tous ceux qui au milieu de nous sont actifs, des acteurs de terrain et contribuent à la paix, contribuent à l'avancement du royaume de Dieu. Merci de nous aider les uns et les autres, individuellement, personnellement et collectivement, à être des artisans de paix, des messagers de paix, en parole et en acte. Amen. Amen.
Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur, oh, voix attachée, son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé.
percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin.
Cette parole est vraiment qu'on puisse retenir de ne pas être violent. Et depuis que je l'écoute, j'ai dit, il évite le mot agressif. Et il a raison, parce qu'agressif, c'est de la violence. Mais qu'on soit vraiment ces artisans de paix durant toute cette semaine, auprès de nos proches, de nos voisins, de nos collègues de travail. Merci Seigneur pour mes collègues de travail. Non, ils sont vraiment bienveillants. Mais qu'on soit ces artisans de paix toute la semaine. C'est notre objectif de cette semaine. Alors vraiment, passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à nos internautes et rendez-vous la semaine prochaine.